honte durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Comment enseigner l'écologie au grand public? Les modèles éducatifs actuels sont-ils à la hauteur des enjeux environnementaux? Et si l'écologie populaire pouvait être la solution à cette problématique? On en parle dans quelques minutes avec Nathanaël Wallenhorst, chercheur à l'Université catholique d'Angers, doyen de la faculté d'éducation. Mais avant, direction Liré, à l'ouest du Maine-et-Loire, où l'association La Turmelière organise des classes de découverte, des centres de vacances, des séminaires, des stages sportifs et culturels ou encore des fêtes de famille. Le tout dans un cadre magnifique, celui du château de la Turmelière situé entre parc et jardin. Simon Bouquerel de Radio Campus Angers a suivi des élèves de primaire le temps d'un après-midi.
Allez, c'est parti !
Allez les enfants, on avance !
Dans le village de Liré, à deux pas de la Loire, se trouve le château de la Turmelière. Si le domaine a vu naître le poète Joachim du Bellay en 1522, il est aujourd'hui un lieu d'éducation à la nature, un lieu d'écologie populaire. Pour Honte Durable, j'ai pu passer l'après-midi sur place aux côtés des élèves de l'école de la Contrie à Nantes en semaine de classe découverte. Je suis accueilli par Nicolas, éducateur environnement et adjoint de direction de la structure. Il m'en dit plus sur le lieu.
Donc le domaine de la Turmelière, c'est un centre qui appartient à la Ligue de l'enseignement de Loire-Atlantique et dans lequel on retrouve l'association La Turmelière qui est un centre d'accueil en fait d'enfants en classe de découverte, mais qui fait aussi plein d'autres activités. On est au milieu d'un espace naturel sensible de 45 hectares et en plus on a un centre qui est écolabellisé, donc on a l'écolabel européen. Donc alors moi, ça fait quelques années que je suis là maintenant, on a toujours travaillé dans cette démarche-là, donc on se pose même plus la question de pourquoi on le fait. Et pour nous, c'est quelque chose de naturel.
Lors de cette semaine, c'est donc l'école de la Contrie à Nantes qui occupe les lieux. Au programme Randonnée, découverte de la nature avec Anaïs, qui leur parle de la faune locale présente dans le parc du château.
Alors rapprochez-vous ceux de derrière. Quelque part autour de vous, plutôt en hauteur, il y a les traces d'un animal qui est passé par là.
Je sais ce qui... Un sanglier.
Pas un sanglier. Faut regarder déjà, plutôt en hauteur.
Un koala.
Il y a des koalas ici.
Un nid d'aigle. Un faucon.
Un oiseau.
Quel type d'oiseau?
Un faucon. Un rapace.
J'ai entendu le mot.
Pivert.
Pivert. Est-ce que vous voyez l'arbre mort ici, là? Ça, c'est le trou des pivert. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble, un pivert?
Oui. Ça ressemble à la pivert, là, qui fait tététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét
celui du vrai pivert. Grâce à son enceinte, Anaïs nous le fait découvrir.
Attention, on lui a fait une très grosse blague. Ça, c'est le chant du pivert. Donc si un jour, vous entendez un oiseau qui rigole, c'est le pivert.
La balade continue dans le parc. Au loin se dressent des grands arbres. Connaissent-ils leur nom ?
Pas des chênes. Des pins, pas des pins.
C'est des séquoias.
C'est des séquoias. Les séquoias, c'est les plus grands arbres du monde. Alors ceux-là, ils sont pas les plus grands, hein. Mais je vous laisse aller les toucher ou taper très légèrement dessus, ils sont assez particuliers.
Ça fait de l'écho en fait à l'intérieur.
Mais c'est tout mou.
C'est mou et ça fait de l'écho, on dirait qu'il n'y a rien à l'intérieur.
Ah ouais.
On dirait toc toc toc. Qui est là ?
Un arbre qui fascine et qui est doté d'une grande force.
Ils sont inifuges.
Inifuges.
Vous retenez ? Je leur poserai la question au goûter. Chaque mauvaise réponse, un goûter pour moi.
Ça va, c'est facile.
Donc ils sont inifuges. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre feu. Si un jour il y a un incendie, alors je veux pas qu'il y ait un incendie, hein, mais si un jour il y a un incendie, tout va brûler, même le château il pourrait brûler, non. Mais pas les séquoias.
Le séquoia, une des nombreuses découvertes des enfants lors de cette randonnée, mais l'intérêt de cette balade va plus loin.
Ça leur permet vraiment de découvrir le parc et des espèces qu'ils ne connaissent pas. Voilà, on a par exemple on a des séquoias, ou même en animal protégé, on a la genette qui n'est pas forcément très connue. Et puis aussi de découvrir des plantes qu'ils voient tous les jours, qui peuvent se manger, ou voilà, découvrir vraiment plein de choses sur la nature.
des plantes qui peuvent se manger, comme par exemple l'oxalis.
L'oxalis, ça peut faire un peu penser à un trèfle. Ça peut se manger, ses feuilles en plus, elles font un petit cœur. Vous allez voir, ça a un petit goût un peu acidulé. Vous voyez la pomme pas mûre ?
Ouais.
Bah, c'est un petit peu le même goût.
Alors, verdict ?
C'est hyper bon. C'est acidulé, c'est vraiment comme la pomme mûre, c'est hyper bon.
Ah ouais ?
C'est trop bon.
C'est incroyable, j'en veux plein.
Alors, est-ce que vous aimez ?
Super bon, en plus c'est un peu acide.
T'en aurais mangé de toi-même ?
Non, parce que je savais pas qu'on pouvait en manger.
C'est trop bon.
On dirait des murs.
On dirait des murs ?
Ouais. Enfin, pas les murs en pierre, les fruits.
Le fruit. À l'heure où certains font des découvertes culinaires, d'autres participent à un atelier dans l'une des nombreuses annexes du château. Je quitte donc la randonnée et me rends à l'activité animée par Nicolas.
Ok, et lequel d'entre vous prend la parole ? Mettez-vous d'accord ? Il y en a un qui commence ?
Ici, c'est une forêt avec deux arbres.
L'atelier de cet après-midi, c'est un travail pour la compréhension de l'empreinte écologique. Donc le principe de la Terre nous fournit ce dont on a besoin pour vivre et l'incidence qu'on a sur la planète. Donc comment on fait pour répondre à nos besoins et assimiler nos déchets.
Pour cela, les enfants sont invités à imaginer une île sur laquelle ils pourraient vivre en totale autonomie.
Là, il y a un pommier, ici il y a la forêt, on peut aller chasser des lapins peut-être et tout. Ici il y a la plage, ici il y a base de loisirs. Pour s'amuser, on va bien se divertir quand même. Ici, on a le four pour réchauffer la nourriture.
Là, on a la réserve de bois. Et là, on a les toilettes. Et qu'on s'en sert d'engrais pour faire pousser le potager.
Ouais. Ah, le caca, ça peut servir d'engrais.
Une fois l'activité terminée, direction la récréation dans un cadre exceptionnel, en pleine nature. L'occasion pour les enfants de profiter des derniers instants à la Turmelière et de faire un bilan de leur séjour.
Incroyable.
Ça passe beaucoup vite.
Et j'ai hâte de rentrer chez moi pour revoir mes parents. C'est masterclass.
On s'est bien amusé, mais ça passe très vite et j'ai envie d'aller chez moi aussi.
Rentrer chez soi, mais en ayant appris plein de choses, comme pour Amira et Milan.
On a appris l'empreinte écologique, de recycler, de prendre soin de la nature. C'est surtout ça. Et on a visité. Et l'histoire du château.
On a appris aussi beaucoup de choses sur les plantes ou les arbres. Et on a visité les ruines de l'ancien château de Joachim du Bellay.
Et ces nouvelles connaissances, elles seront bien utiles pour les cours. Frédéric Mérol, l'institutrice, espère bien créer des ponts entre le séjour et le programme scolaire.
L'écologie, ça nous intéressait, c'est un sujet sur lequel on parle avec les enfants, avec les élèves, et puis en sciences, on raccorde nous aussi en sciences par rapport au programme en CM2. Moi, j'ai pris deux ateliers, effet de serre et empreinte écologique, et ces deux ateliers qu'on peut faire ici plus facilement. Il y a du maternel, il y a des gens qui s'y connaissent aussi quand ils parlent de ça, donc c'est plus facile aussi pour nous d'aborder ces sujets-là ici.
Mais pour elle, l'apport va plus loin que l'aspect pédagogique.
On vient vraiment de la ville, là, donc ils sont dans un milieu plutôt de la campagne, de la nature, donc c'est bien aussi de les voir évoluer dans ce milieu-là. En plus, on a un temps magnifique, donc c'est vraiment super.
Les élèves de l'école de la Contrée repartent donc à Nantes pour laisser place à d'autres groupes scolaires, des publics parfois très différents à qui il faut savoir s'adapter.
Nous, en tant qu'animateurs, voilà, on a appris à gérer notre vocabulaire face aux enfants, mais on essaye pour les plus grands de leur présenter quand même 2-3 mots de vocabulaire qui peuvent revenir. Après, avec des tout petits, ça va être plutôt vraiment du sensoriel, plein de mini-jeux, des petites activités où vraiment faut toucher, sentir, goûter. C'est comme ça qu'ils enregistrent le mieux. Alors que les grands peuvent tenir plus longtemps à l'écoute, mais il leur faut quand même des parties de jeu pour que ça rentre aussi plus facilement dans leur mémoire.
Et avec toutes ces activités proposées, pour Nicolas, c'est très clair, le château de la Turmelière est un lieu qui participe à l'écologie populaire.
Moi, j'aime transmettre ce que j'ai découvert, ce qu'on m'a transmis. Et en fait, on est purement dans l'éducation populaire, du peuple qui apprend par le peuple. Hein, donc je transmets des choses aux enfants en espérant qu'eux puissent les transmettre derrière. Après, c'est un centre qui est ouvert toute l'année, qui reçoit, on est à 5, 6 000 enfants, ça dépend les années. Et surtout, on est ouvert à tout le monde. Donc c'est pas un centre qui reçoit qu'un seul type de public, on a aussi bien des enfants de 3 ans que des seniors en vacances et on met la même notion d'accueil pour tout ce monde-là. Voilà. Et toutes nos valeurs autour de l'écologie, on les transmet, que ce soit sur des enfants en classe découverte, sur un groupe qui vient juste faire la fête le week-end, ou sur un séminaire, ou sur des gens qui veulent juste visiter pour découvrir.
Des valeurs importantes pour la Tourmelière, comme pour tout lieu qui se revendique de l'écologie populaire. Et si l'expérience vous tente, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.tourmelière.org.
Voilà à l'instant pour ce reportage sur le château de la Tourmelière. Pour aller plus loin sur l'éducation aux enjeux environnementaux, Simon Bouquerel de Radio Campus Angers a rencontré Nathanaël Wallenhorst, chercheur à l'Université catholique d'Angers, doyen de la faculté d'éducation, spécialiste de l'Anthropocène, dont il nous donne sa définition.
Donc l'Anthropocène, c'est une proposition d'époque géologique. Voilà, c'est un concept, on pourrait dire scientifique à la base. On pourrait dire, ça n'a qu'une petite importance, quoi, des débats de scientifiques, à la limite, on pourrait se dire qu'on s'en tape. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis 2 millions d'années, la Terre est dans une alternance entre des moments glaciaires longs et puis des interglaciaires plutôt courts. Et il y a 11 700 ans, on est entré dans un interglaciaire qui est caractérisé par une exceptionnelle stabilité et prévisibilité entre le climat et puis les écosystèmes de la biosphère. Et après, à partir de là, c'est ce qui fait que les expérimentations agricoles, elles ont pris et on a maîtrisé les écosystèmes, on a dégagé des excédents agricoles, on les a dealés, on a fait du business. Et puis à partir de là, il y a eu toute la diversité fonctionnelle des sociétés. Ce qui fait qu'on est en train d'échanger tranquille mimule, c'est qu'on a pris un petit déj ce matin qui résulte de notre capacité à dégager des excédents agricoles, qui résulte lui-même d'une stabilité, d'une prévisibilité. Et là, ce qui est en train de se passer, de fait, plusieurs chercheurs de différentes communautés scientifiques nous alertent là-dessus en disant « mais on sort de ce qu'on appelle les fourchettes de variabilité de l'Holocène ». C'est-à-dire, depuis 11 700 ans, en gros, la moyenne annuelle du climat à la surface de la Terre est de plus ou moins 1 degré. Et c'est cette fourchette-là qui fait que, nos sociétés peuvent vivre, etc. Et le fait de sortir de cette fourchette pour, du coup, une nouvelle époque, l'Anthropocène, ça signifie que le socle sur lequel nos sociétés se sont encastrées, ce qui fait que la vie en société est possible, est en train de se fragiliser. Et donc, du coup, ça dit l'ampleur du risque pour les sociétés.
Alors, vos recherches s'insèrent dans les sciences de l'éducation. C'est quoi le lien qu'on peut faire entre cette discipline et la question écologique environnementale ?
Alors, mon travail s'inscrit dans plusieurs champs disciplinaires et les champs des sciences de l'environnement en fait partie aussi. Mais effectivement, il y a une partie qui s'inscrit en sciences de l'éducation. Et à cet endroit-là, il y a toute une réflexion éducative qui a créé, qui a pensé. En fait, l'éducation telle qu'on la connaît, avec des pratiques éducatives, avec une pensée éducative, etc., ça résulte. Là aussi, c'est une des fonctions de nos sociétés qui résulte de cette stabilité, cette prévisibilité entre le climat et les écosystèmes. Et en d'autres termes, ce qui fait qu'on éduque aujourd'hui, c'est la résultante à un moment donné de la stabilité de l'Holocène. Et donc, entrant dans une nouvelle époque, c'est toute la pensée éducative qui a refondé, c'est toutes les pratiques éducatives qui sont à refonder. Et l'éducation, à partir de maintenant, dans les années à venir, dans les décennies à venir, à quoi elle va ressembler ? Fondamentalement, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'il faut le reprendre profondément à la racine. Et c'est la même chose pour tous les champs disciplinaires, pour l'économie, pour la politique, pour le droit, etc., où les caractéristiques de la nouvelle époque géologique dans laquelle on entre viennent complètement transformer toutes nos disciplines.
Alors, parmi vos ouvrages, on en compte plusieurs, et notamment un qui s'intitule « Penser l'éducation à l'époque de l'Anthropocène », où vous partez des sujets de SES du bac 2022. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous essayez de démontrer ?
Donc, c'est un livre qu'on a créé avec Renaud Etier, un collègue ici du CO, prof à la faculté d'éducation. Donc, effectivement, en 2022, les lycéens qui ont passé le bac, parcours de spécialité SES, ils ont dû plancher sur le sujet suivant. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Je le refais encore un coup. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. On voit plusieurs choses là-dessus. La première chose, bon, il y a une confusion entre processus écologique et puis limite planétaire, mais bon, ça, à la limite, voilà. On voit que la limite, ici, elle est positionnée de façon prométhéenne. C'est-à-dire, dès qu'on positionne une limite, c'est pour identifier comment on va la franchir. C'est le mythe, hein, permanent du dépassement de soi, du dépassement de tout ce qui fait obstacle dans nos sociétés, d'un toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ici, les limites, au niveau des chercheurs en sciences du système Terre, nous disent que les limites, elles sont absolument nécessaires. C'est des limites qui, si on les transgresse trop, on fracasse le socle sur lequel sont nos sociétés. Si on les transgresse trop, on a une chance sur une de pulvériser nos sociétés. Et donc, les limites, elles sont là pour qu'on ne les transgresse pas, pour qu'on reste en deçà. Et là, un groupe d'économistes principalement, en tout cas de professeurs agrégés en SES, en lien avec les programmes scolaires, en lien avec toute la hiérarchie de l'éducation nationale, a choisi ce sujet-là. C'est un vrai problème. Ça signifie non prise en compte de savoirs autres que ceux de la SES, mais de savoirs autres qui permettent à tout le champ de la SES d'exister. Et donc, du coup, là aussi, c'est vraiment le socle sur lequel toutes les logiques socio-économiques valent d'une certaine façon, qui n'est pas pris en compte. Donc ça a un nom, c'est de l'obscurantisme, ni plus ni moins. Je ne dis pas que toute l'école est enlisée dans des logiques obscurantistes dans le rapport au savoir, mais à cet endroit, de façon très claire, oui.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas à la hauteur des enjeux ?
Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'éducation nationale, par l'école, etc., mais qui ne prennent pas suffisamment acte des ruptures biogéophysiques dans lesquelles font partie des risques contemporains. Et reste pensé dans un paradigme qui est un paradigme linéaire, continuiste, où on identifie en permanence des conséquences qui sont la résultante de causes. On envoie un petit peu de CO2 et hop, ça se réchauffe. Voilà. Mais les logiques non linéaires, et ça c'est la caractéristique même du fonctionnement des systèmes complexes et donc du système Terre, et qui en ce moment court le risque d'être vraiment titillé, qui est à un moment donné, on voit quelque chose advenir qui est sans conséquence avec la cause, d'une certaine façon. C'est-à-dire, si on continue d'envoyer du CO2, du méthane, etc., le niveau de réchauffement et le niveau de fragilisation des sociétés, hop, passe ailleurs et sans commune mesure. Un simple exemple, une étude qui nous dit, si on reste sur la même trajectoire climatique, en 2100, il peut y avoir des pics caniculaires en France de 55 degrés. Le record du monde aujourd'hui à la surface de la Terre, c'est 54,4. C'est-à-dire 55 degrés, il n'y a plus de production agricole. Ça désertifie de façon durable des territoires qui sont dédiés à la production agricole. Ces éléments-là, non linéaires, de fait, ils ne sont pas assez pris en compte.
Alors, la thématique de notre série, elle porte sur l'éducation populaire. Est-ce que ça, c'est un bon outil pour justement mieux appréhender tous ces enjeux climatiques ?
Alors, c'est sûr que les éléments dont on vient de parler, là, par exemple cette étude, ça amène tout de suite un questionnement qui est un questionnement politique. Politique qui n'est pas nécessairement appréhendé ici de façon partisan. Mais tout de suite, on se pose la question, bon alors, on laisse les choses se faire et fracasser ce socle qui nous permet d'être en vie, ou on laisse d'autres, le système actuel, capitaliste, mu par un capitalisme rentier et spéculatif, où le toujours plus est la règle, etc. On laisse ça vraiment scier la branche sur laquelle on est assis. On a envie de se dire, enfin en tout cas, moi, immédiatement, j'ai dit, bah non, en fait, notre boulot, c'est de débrancher les tronçonneuses et de mettre hors d'état de nuire les bûcherons. Et en fait, à cet endroit-là, de fait, l'école est peu familière de ce type de réflexion politique, politique entendue comme l'animation de l'action de concert. Ce qui fait qu'ensemble, on peut décider d'agir et d'aller dans une direction. Et le « ensemble » intégrant bien évidemment la controverse entre nous, le débat citoyen entre nous, qui est absolument nécessaire. Il ne s'agit pas d'être tous d'accord, mais il s'agit à un moment donné d'aborder ces choses-là. L'école ne sait pas bien faire, l'éducation populaire, beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc là, c'est sûr qu'on a affaire à des thématiques typiques qui peuvent être saisies par l'éducation populaire, ça c'est clair.
Mais qu'est-ce qui, dans sa forme, permet de mieux appréhender ces questions ?
Il y a plus de liberté, en fait, il n'y a pas de contraintes en lien avec des programmes, etc. Et puis il y a quelque chose aussi qui est au plus, dans l'éducation populaire, au plus près de la vie des gens, et cherchant, accompagnant une émancipation au plus près de la vie des gens, voilà. Et l'école s'est plutôt positionnée comme un sanctuaire à l'abri de la division sociale. Donc à cet endroit-là, effectivement, on a deux postures, deux points de départ qui sont très différents.
Et puis peut-être aussi avec des types d'intervenants différents et aussi des publics différents.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis davantage de liberté aussi par rapport à ces grandes questions. Et puis une tradition aussi tout simplement de ne pas hésiter à réagir aux injustices, aux inégalités, et pour pouvoir accompagner aussi quelque chose de l'ordre de soulèvement. Quand je dis ça, c'est absolument pas dans une acception violente. Moi, je suis éducateur. La violence est absolument exclue. Voilà, et la mission fondamentale des éducateurs, que ce soit dans l'éducation populaire ou à l'éducation nationale, c'est de faire front face à la violence. Mais c'est quelque chose de l'ordre de soulèvements collectifs qui sont nécessaires pour qu'on reprenne la main sur notre devenir et qu'on arrête de scier la branche sur laquelle on est assis.
Merci beaucoup Nathanaël Vallenhorst d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, doyen de la faculté d'éducation à l'Université catholique de l'Ouest à Angers.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durable.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.